Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette nouvelle série de cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc, l'année dernière, je vous ai abondamment parlé en fait du climat des deux derniers millénaires, les fluctuations que l'on en connaissait, en même temps les incertitudes aussi qui sont toujours là avec nous. Et encore une fois, c'est une science qui progresse. Et j'avais en particulier, je vous ai parlé de ces compilations en fait de changements de température, d'anomalies de température sur les deux derniers millénaires que l'on résume à l'extrême de façon imagée avec cette courbe bon, qui a été abondamment commentée et montrée un peu partout. En particulier, c'est une des courbes emblématiques du dernier rapport du GIEC qui vous montre en fait les fluctuations de température moyenne exprimé en anomalie de température au cours des deux derniers millénaires. Et alors, ces différentes fluctuations, eh bien, suivant les techniques statistiques qui sont utilisées pour faire ces compilations, eh bien, on va trouver des courbes qui vont être un peu différentes. À chaque fois, il y a des calculs aussi d'incertitude qui sont liés à la fois à une véritable variabilité spatiale. À chaque fois que l'on fait une moyenne à l'échelle mondiale, eh bien, on va moyenner mathématiquement toutes les variabilités qui peuvent être régionales et qui sont réelles, donc c'est quelque chose, cette moyenne qui masque en fait une grande complexité et en même temps de véritables incertitudes, parce que pour remonter dans le temps très loin, eh bien on est obligé d'utiliser ce que l'on appelle des proxys ou des indicateurs qui sont approchés, qui ne sont pas des thermomètres en particulier, qui permettent quand même d'avoir une idée, de reconstituer des paléotempératures, et c'est ça en fait qui est moyenné. Donc ici, ce qui est représenté sur cette courbe, et encore une fois, je l'ai abondamment commenté et décrite un peu dans le détail l'année dernière, cette courbe, eh bien, elle est essentiellement fondée sur des archives paléoclimatiques, notamment les cernes d'arbres, hein, c'est ce qui est récapitulé dans le diagramme du haut, qui vous représente d'où viennent les informations compilées et moyennées dans cette courbe moyenne qui ressemble à une crosse de hockey avec une diminution pendant les derniers siècles qui correspond à ce que l'on appelle communément le petit âge glaciaire, et puis on voit très bien la remontée depuis plus d'un siècle maintenant, du changement de température qui est principalement lié à l'effet anthropique. Alors, on a à la fois des informations qui proviennent des arbres, mais pas seulement, on a aussi des stalagmites, on peut obtenir de l'information à partir des coraux quand on est intéressé par les températures de l'océan, on peut aussi utiliser des sédiments lacustres ou des sédiments marins, donc une grande complexité, à chaque fois avec des incertitudes, mais le fait, cette paléoclimatologie, c'est une science qui est importante si on veut mettre en perspective le changement climatique actuel, et c'est un peu une science de la redondance, on est obligé de faire feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on va utiliser des archives qui ne sont pas parfaites, mais peuvent nous permettre en fait de remonter à la fois dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de chronologie qui est fondamentale, c'est-à-dire que si on a une archive dont on ne connaît pas l'âge, c'est très clair que ça ne va pas être très intéressant pour reconstituer le climat, mais l'axe des Y est aussi fondamental, il y a des incertitudes et beaucoup de travaux en fait de paléothermométrie, notamment si on est intéressé par la reconstitution des paléotempératures. Donc cette courbe, je vous l'ai déjà montré, on va y revenir, et elle est fondamentale pour essayer aussi de comprendre ce qui s'est passé pendant les deux derniers millénaires, et ces deux derniers millénaires, la période historique, eh bien, elle est caractérisée par des sociétés, le développement de sociétés humaines, et qui ont été impactées par ces événements climatiques, et donc je vais revenir, je vous ai promis en fait de revenir sur certains cas un petit peu emblématiques d'impacts qui ont été supposés ou documentés pour certaines parties de l'histoire. Et encore une fois, à chaque fois, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir essayer de discerner un impact climatique au milieu qui participe à des événements sociétaux qui ont eux-mêmes leur propre dynamique, ce qui fait qu'il est toujours compliqué d'avoir une vue précise et quantifiée du déterminisme climatique, mais dans certains cas, il y a indéniablement des péjorations climatiques qui vont avoir des incidences ou des améliorations climatiques qui vont en avoir tout autant, mais qui vont être inverses. Donc on va voir plusieurs cas. Aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai décidé en fait de vous parler d'un cas un petit peu emblématique de l'expansion des Vikings. En particulier, on va voir certaines particularités de cette histoire. Et alors, pour faire très simple, lorsque c'est pas à moi de vous faire un cours d'histoire de l'expansion des Vikings, qui classiquement est borné entre le 8e et le 11e siècle. Bon, ça, ici, vous avez une vue imagée qui représente justement l'historique un petit peu de cette expansion depuis le 8e siècle. Alors, avec tout à fait au départ, bien évidemment, une occupation de la Scandinavie et ensuite des raids au départ par les Vikings un petit peu partout en Europe, aussi à l'est. Alors tout a commencé traditionnellement. En fait, l'historiographie débute en fait cette ère ou cet âge viking avec le saccage en fait de l'abbaye de Lindisfarne en 793. En Angleterre, mais il y a eu des raids plus précoces en fait qui ont précédé, mais classiquement donc c'est l'année 793 qui est retenue pour ce début de l'expansion viking, et les choses se terminent officiellement aussi avec un autre épisode qui est l'échec en fait de l'invasion par le roi de Norvège en Angleterre. Qui a combattu donc le roi saxon Harold Godwinson en 1066, c'est la bataille de Stamford Bridge, donc qui officiellement termine cette ère viking, mais bien évidemment les Vikings se sont installés. En particulier, c'était à la fois des raids. Ici, ce qui vous est résumé sur ce diagramme, c'est l'expansion au cours du temps avec des diagrammes de couleurs 8e siècle, 9e, 10e, 11e, et les zones où les Vikings se sont contentés de faire des raids, donc bien connus au nord de la France, et aussi en Angleterre et autres. Et il y a aussi des colonies de peuplement. Les Vikings ont peuplé les différentes contrées qui sont présentées sur cette carte, à la fois en Europe du Nord et jusqu'à l'Est, tout le long du Dniepre. Et on va voir que c'est allé même beaucoup plus loin, en Atlantique Nord, jusqu'en Amérique du Nord, dont on va parler. Alors, cette ère, cet âge viking, finalement, a perduré bien au-delà du XIe siècle, mais classiquement, donc on regarde cette expansion avec les raids et cet épisode, ces épisodes tout à fait bien répertoriés dans l'histoire, qui sont bornés dans une certaine période. Alors, c'est pas, encore une fois, à moi de vous faire un cours d'histoire, mais il est clair que, bon, je vous réfère à certains ouvrages classiques, en fait, sur le sujet. C'est une histoire qui est très compliquée, mais globalement, les historiographes, les historiens ont compris les différents facteurs, ont essayé de les classer, et en même temps, il est clair que cette expansion viking, elle n'est pas unifactorielle, elle est liée à la fois à des facteurs internes et externes, et surtout aussi à la capacité de ces populations de l'époque de les exploiter. Donc ce qui a poussé les Vikings à s'étendre, il y a en particulier des rivalités entre les élites scandinaves, la formation des royaumes, royaumes de Norvège, Danemark et Suède, qui n'étaient pas encore tout à fait formés au début de ces raids, etc. L'économie scandinave était fondée en fait sur la richesse et le statut social, donc c'était important de montrer ce qu'on avait, et surtout aussi l'agriculture est, somme toute, assez difficile. Même si, bon, là c'est lié à la position géographique, même s'il n'y a pas de fluctuations climatiques, les terres arables sont assez limitées dans les régions scandinaves. Et ce qui a attiré, il y a à la fois, donc c'est ce qui a repoussé un petit peu les Vikings, les chefs Vikings, et qui les a poussés à aller voir d'autres contrées, mais il y a ces autres contrées, eh bien, les ont attirées parce que c'était à la fois des cibles riches et vulnérables. On a parlé de l'abbaye de Lindisfarne en 793. Il y avait d'autres monastères qui ont été pillés. Et d'autres villes aussi, et en particulier ce qui les intéressait, enfin ce qui les a poussés aussi à partir, c'est la constatation que politiquement beaucoup de ces cibles étaient fragmentées politiquement avec des royaumes rivaux, et donc ils ont utilisé finalement ces défauts pour leur raid. Et ensuite, lorsqu'il y a eu installation d'une véritable diaspora, eh bien, ça leur a permis, en fait, de se connecter et d'aller encore plus loin à chaque fois qu'ils pouvaient. Donc, c'est ça qui a été important, c'est-à-dire qu'il y a il y a à la fois des causes qui ont poussé les Vikings à sortir de la Scandinavie, qui les a attirés en Europe, et surtout des raisons qui ont rendu cette colonisation et ces raids possibles, en particulier la technologie maritime, donc on en y reviendra, les fameux drakkars, même si c'est un terme utilisé uniquement en France et qui est un mauvais terme, mais on va l'utiliser un petit peu comme aussi le terme de viking, les Vikings se caractérisaient justement par des techniques à la fois maritimes, militaires aussi, tout à fait novatrices, et ils ont réussi à établir des comptoirs un peu partout, qui leur a permis d'aller encore plus loin à chaque fois. Et parmi ces différents déterminismes, celui qui va nous intéresser dans ces cours, ça va être d'essayer de discerner, de voir quelles étaient les conditions climatiques, est-ce qu'elles étaient favorables ou défavorables. Et là se pose le gros problème de savoir comment on va essayer de quantifier. Enfin, la réponse est qu'on ne peut pas le faire, mais c'est important d'avoir ces conditions pour essayer de voir si les conditions étaient favorables ou défavorables, et de là à essayer de quantifier et de dire voilà, c'est ça la cause principale, la cause proximale ou la cause intrinsèque, c'est extrêmement compliqué. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, donc l'ère viking se termine à peu près au XIe siècle officiellement, mais encore une fois elle perdure avec les colonies, et donc avec un abandon des raids. Et bon, essentiellement, c'était lié au fait que les États scandinaves étaient mieux établis. Les Vikings sont convertis au christianisme, ce qui a été important aussi pour l'abandon de ces raids. Et les pays du nord de l'Europe et autres avaient construit, étaient mieux défendus. Et encore une fois, l'intégration économique a fait en sorte que ces raids n'ont pas perduré. Alors, lorsque l'on regarde la courbe, je pourrais vous remontrer cette fameuse courbe Pages-Touquet, là, qui représente les changements de température à l'échelle mondiale. On y voit essentiellement le petit âge glaciaire, on voit assez difficilement un optimum climatique, mais il n'y a rien de particulier lorsqu'on considère uniquement cette courbe pendant la période viking. Et je vous remontre ces fluctuations sur les deux derniers millénaires en soulignant encore une fois de façon simplifiée cette période entre 800 et 1050. Encore une fois, elle est bornée, mais encore il faudrait l'étendre un peu de chaque côté. Peu importe, il suffit, c'est important de garder la même dans le cadre du cours. Quand on regarde de façon un peu particulière, en détail, cette plage temporelle, et la courbe globale, qui est la courbe indiquée ici en grisé, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la courbe des changements de température, de l'anomalie de température à l'échelle mondiale, compilée comme on a pu le montrer dans les derniers cours, on voit que pratiquement c'est relativement plat et il n'y a pas vraiment de fluctuation. Alors, comme je vous l'ai décrit l'année dernière, il y a pas mal de débats en fait dans la communauté scientifique des paléoclimatologues. Parce que il y a à la fois des avantages et des défauts à la redondance de ces indicateurs paléoclimatiques que l'on utilise, archives lacustres, archives marines, coraux, carottes de glace, cernes d'arbres à différentes latitudes. Donc ces compilations, elles ont toutes des défauts, parce que, et le principal défaut, c'est que la chronologie de ces différents enregistrements varie, et donc la résolution temporelle est très variable. Alors, autant les cernes d'arbres permettent d'avoir des datations à l'année près, hein, en particulier sur les derniers 2000 ans, c'est relativement simple d'avoir des bois datés à l'année près, mais y a d'autres défauts viennent avec les avantages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. Les meilleurs enregistrements au point de vue chronologique, que sont les cernes d'arbres, ont certains défauts, en particulier le fait qu'ils représentent uniquement des températures, les cernes, l'épaisseur des cernes ou la densité des cernes ne représentent finalement que les températures estivales. Et pour faire des moyennes à l'échelle mondiale des changements de température, il faudrait aussi avoir accès à la température hivernale. Donc, alors il y a d'autres indicateurs qui permettent de le faire, mais ils n'ont pas la même résolution. Donc, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans le précédent cours, il y a encore des débats. Et ce débat, en fait, on peut le résumer à cette compilation. Il existe un graphe qui résume un petit peu les choses, avec, d'une part, la compilation, on va dire, officielle, celle qui en particulier est emblématique dans le rapport du GIEC, hein, qui est cette courbe Pages 2K, très lisse, avec une incertitude, avec une barre d'erreur exprimée ici en grisé, qui est très importante, ce qui fait qu'on peut très bien dire, moi je vais faire une ligne droite au milieu de cette courbe, et pratiquement les seuls changements que l'on voit, c'est effectivement un petit refroidissement pendant le petit âge glaciaire avant la remontée du dernier siècle. Mais quand on se penche, en fait, quand les paléoclimatologues, en particulier la communauté des dendroclimatologues, se penchent sur cette courbe, ils disent oui, mais il y a des défauts, et le principal défaut, c'est que vous n'avez absolument pas la bonne résolution temporelle, comme tout est mélangé et qu'il y a des incertitudes chronologiques. Eh bien, en faisant des moyennes, on va obtenir quelque chose qui est complètement plat. Et donc les débats ne sont pas terminés encore dans la communauté, et ce graphique, qui est tiré d'un travail par un dendroclimatologue tout à fait important, qui s'appelle Ulf Bungen, qui est à l'Université de Cambridge, résume un petit peu le propos, avec lui propose en fait de plutôt regarder cette courbe, ces différentes courbes lissées, mais qui proviennent uniquement de la compilation des cernes d'arbres, et qui montrent pour les deux derniers millénaires, donc c'est leur compilation, leur meilleure compilation possible réalisée avec les cernes d'arbres à l'échelle mondiale, mais encore une fois avec deux gros défauts: le fait qu'il y a un biais de saisonnalité, c'est plutôt les températures de croissance des arbres, donc c'est pas du tout l'hiver, et deuxièmement il y a un biais certain hémisphérique, c'est-à-dire l'essentiel des séries temporelles sont situées dans l'hémisphère nord, ce qui fait que cette courbe est plutôt caractéristique de l'hémisphère nord. Peu importe, ce qu'il faut voir justement, c'est que quand on considère la période viking, eh bien là on voit que ces courbes, les différentes courbes dendroclimatiques, présentent en fait une variabilité qui est beaucoup plus importante que la variabilité observée avec la courbe compilée avec tous les indicateurs, qui est beaucoup plus plate, et notamment on a des coups de froid importants tout à fait au début de l'ère viking. Alors est-ce que c'est ça qui a poussé les vikings à sortir de Scandinavie? Il n'y a pas vraiment de lien qui est fait, mais en tout cas il n'y a pas de coïncidence, parce que cette période est globalement aussi proche en fait de ce que l'on appelle l'optimum climatique médiéval dont je vous ai parlé l'année dernière. Et il est clair en fait que cet épisode, en particulier la période du 8e et du 9e siècle, donc entre 700 et 900, entre l'an 900 jusqu'à l'an 900, n'était pas caractérisée par le réchauffement climatique médiéval, mais était plutôt une période avec des coups de froid que l'on peut voir justement sur ces enregistrements, ces compilations dendroclimatiques. Alors ici, je vous en montre encore une autre, qui est toujours tirée des travaux d'Ulf Bungen et de collaborateurs, parce que là, il s'agit de compilations et de travaux collaboratifs avec de nombreux autres dendroclimatologues. Ici, vous avez une vue qui représente les changements de température, essentiellement pour l'hémisphère nord, mais à très haute résolution. Là, c'est la meilleure résolution possible, avec des fluctuations Donc tout est exprimé ici en changement de température, exprimé, alors ici vous avez plus 1 degré et moins 1 degré, donc on voit que les fluctuations sont quand même conséquentes. On retrouve des changements de température que l'on a vus dans les précédents cours. On retrouve ici toute la période du petit âge glaciaire avec des coups de froid conséquents particuliers. On retrouve autour de l'an 1000 ce que l'on a appelé l'optimum climatique médiéval, même si, encore une fois, toutes ces appellations masquent une grande complexité. On peut regarder ce que j'ai représenté ici en vert avec un figuré vert. C'est globalement ce qui est appelé l'optimum climatique médiéval. Officiellement, on va le prendre entre 900 et 1250, mais ces frontières ne sont pas absolues. Mais par commodité, et aussi pour pouvoir comparer les différents enregistrements, c'est bien aussi de se fixer un cadre. Donc là, ici, on voit très clairement que cet optimum climatique médiéval, il est caractérisé aussi par des à-coups, mais on est plutôt au-dessus de la moyenne, de cette ligne qui représente en fait la moyenne entre 1961 et 90, donc on est déjà dans la période de réchauffement actuel, qui est représentée par la ligne horizontale. Donc toute cette optimum climatique médiéval en fait succède à cette période viking, hein, que j'ai encore indiqué ici entre 800 et 1050, encore une fois des frontières arbitraires, mais c'est bien d'avoir un cadre pour pouvoir faire des comparaisons. On voit très nettement que la période cette période en particulier entre 800 et 900 n'était pas caractérisée par le réchauffement, elle est plutôt caractérisée par des grands coups de froid, tout à fait entre 800 et 900, et il faut attendre un siècle ou deux avant d'être carrément effectivement dans cet optimum médiéval. Alors d'autres compilations ont été générées par d'autres chercheurs, ça c'est une compilation plus ancienne mais qui est restreinte à toutes les informations de haute latitude, donc on retrouve finalement le même discours, on voit l'optimum climatique médiéval avec ses changements de température, obtenus avec différents enregistrements répartis dans l'hémisphère nord à haute latitude, et cette ère viking, cet âge viking qui précède et commence et se termine effectivement pendant la période qui est caractérisée par l'optimum climatique médiéval. Un autre diagramme qui lui est beaucoup plus centré sur l'Europe, pour montrer en fait qu'il y a à la fois accord mais en même temps beaucoup d'incertitudes dans ces estimations. Le vert est à moitié plein lorsqu'on regarde ces enregistrements paléoclimatiques. Ici, c'est une compilation purement dendroclimatique, ici, il n'y a pas d'autres enregistrements, mais à partir d'arbres essentiellement en Europe, avec des fluctuations exprimées en anomalies de température, et avec à chaque fois ce que j'ai représenté, c'est l'OCM entre 900 et 1250, le petit âge glaciaire entre 1250 et 1850, et d'autre part, la période 800-1050, âge viking, qui débute effectivement avant cet optimum médiéval avec des coups de froid. Là, il s'agit d'une compilation qui intéresse une zone qui est relativement proche de la Scandinavie. Ce qui serait aussi intéressant, c'est d'aller regarder directement en Scandinavie si on n'a pas des informations importantes paléoclimatiques. Alors effectivement, il y a des informations paléoclimatiques, même récentes. Ça, ici, je vous montre en fait, je vais vous montrer deux exemples d'archives climatiques qui ont été utilisées pour regarder ce qui s'est passé en Scandinavie exactement pendant cette période. Et pour vous montrer en fait que effectivement il y a eu des changements, mais il est encore difficile en fait d'avoir une vue complète et exhaustive du sujet. Alors il s'agit de séries paléoclimatiques qui ont été obtenues au nord dans un petit lac à partir des sédiments d'un petit lac qui est le lac Sagjernet au nord d'Oslo, qui a été carotté. Et dans ces carottages, les spécialistes, paléoclimatologues, ont à la fois compté les pollens, obtenu différents types d'informations. Ici, c'est un peu un résumé un peu de tous les résultats. Alors, bon, il faut imaginer beaucoup de données individuellement, des comptages individuels de chaque type de pollen, etc., etc. Des analyses aussi géochimiques, ils ont essayé de reconstituer des vraies paléotempératures. Un des gros défauts en fait de la dendroclimatologie, c'est que l'épaisseur des arbres, comme je vous l'avais indiqué, c'est un indicateur approximatif des changements de température. Suivant les zones, ça peut être aussi lié aux précipitations. Donc il y a une certaine incertitude. Donc même si on exprime des courbes en termes d'anomalies de température, il faut toujours prendre ça avec... respect, mais en même temps doute dans une certaine mesure, car il faut effectivement croiser les informations. Alors il y a d'autres types d'enregistreurs de paléotempérature qui permettent d'être plus quantitatifs, et en particulier on peut mesurer les isotopes de l'eau. On peut directement les mesurer, on peut mesurer le rapport deutérium sur hydrogène ou oxygène 18 ou sur oxygène 16 dans les carottes de glace ou dans les précipitations, dans les carottes de glace du Groenland, et c'est un merveilleux thermomètre parce qu'il y a une corrélation directe qui est liée au phénomène d'évaporation et de précipitation entre les rapports isotopiques au 18 au 16 et des surages deutérium sur hydrogène dans les précipitations. Et alors, dans ces lacs, eh bien, on n'a pas conservé de précipitations directement. Il n'y a pas de carottes de glace exploitables qui permettent de faire ça dans cette zone. Et donc, ce qui a été mesuré, en fait, c'est des rapports des surages de l'hydrogène dans les N-alcanes, des molécules qui ont été prélevées dans les sédiments du lac. Ces N-alcanes, ce sont en fait les cires qui recouvrent les feuilles des arbres. Donc ce sont des molécules qui sont très communes, et il a été montré, en particulier dans le cadre de ces travaux, mais dans d'autres aussi, que ce dessurage des N-alcanes est complètement corrélé au dessurage des précipitations, qui lui-même est corrélé à la température. Donc il est possible, avec cet outil, de reconstituer des changements de paléotempérature. Alors, c'est effectivement ce qui a été fait par ces auteurs, donc publié assez récemment, en 2025, où ils ont effectivement exprimé des changements de température dans le lac au cours du temps. Tous ces sédiments peuvent être datés, alors moins précisément qu'avec les comptages de cernes d'arbres, mais il y a d'autres méthodes de datation. Et donc, dans ces archives, il est possible aussi à la fois de faire des mesures de température, de faire des mesures des différents types de pollen, en particulier ici le pourcentage des pollens d'arbres montre une certaine diminution pendant la période viking, hein, qui est exprimée ici en haut. Donc c'est assez subtil, mais c'est lié au fait qu'il y a eu une déforestation locale dans cette zone. Et en particulier aussi l'agriculture, elle peut être reconstituée à partir de certains taxons de plantes cultivées. Donc on est sûr que effectivement il y avait une exploitation agricole, et d'autre part une augmentation des charbons de bois qui était liée à la fabrication de métaux, en fait, à la métallurgie, et essentiellement dans cette zone. Et donc voilà, donc c'est un exemple particulier d'une archive paléoclimatique qui a été proposée assez récemment. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de petites fluctuations, c'est pas extrêmement net. En particulier, l'âge viking ici, qui est représenté ici, on voit très nettement que les conditions de température étaient absolument les mêmes que pendant la période plus froide qui est représentée ici. Et l'amélioration climatique correspondant à l'optimum climatique médiéval est beaucoup plus tardive, en tout cas dans ces sédiments. C'est ce qu'on voit ici. Bon, c'est pas forcément très impressionnant. Il y a le tout, cette amélioration climatique de l'OCM, elle est visible essentiellement avec un point. Donc il est clair qu'il faut refaire un peu de travail sur cet enregistrement ou sur d'autres un petit peu équivalents. Mais ce que je voulais, c'est vous montrer un petit peu le type d'information qui permet de remonter dans le temps, même si les choses ne sont absolument pas parfaites. Alors un autre exemple qui est situé pas très loin non plus, qui a été publié aussi assez récemment, d'une série paléoclimatique obtenue en Scandinavie, ici, d'un lac, un autre lac, Ljogotjern, au nord d'Oslo. Et là, ce qui a été fait, ce sont encore une fois des études géochimiques et palynologiques. Les pollens permettent de reconstituer l'environnement, à la fois les paléoclimats autour du lac. Alors, il s'agit d'un très petit lac, hein, ce sont des lacs, mais qui étaient entourés par un site archéologique, par des des évidences archéologiques de l'époque et même des bâtiments. Donc il est tout à fait dans un contexte archéologique bien compris. Et grâce à ces études, eh bien, il est possible de reconstituer les variabilités de l'environnement. Alors c'est ce qui est fait ici. Bon, ça, c'est encore une fois un graphique. Alors on peut voir beaucoup de petites fluctuations. Qui compile un petit peu les informations révélées par ces archives sédimentaires de ce petit lac, qui sont importantes et, encore une fois, le verre est à moitié plein, quelquefois peu satisfaisante au point de vue de la précision ou de la justesse des indicateurs, mais c'est tout ce qu'on est obligé de faire avec. Alors, ce qui est présenté sur ce diagramme pour, pour la période jusqu'en 2000, ici, vous avez des changements de température. Les deux courbes du haut représentent en fait les compilations que je vous ai déjà montrées, donc qui correspondent à des compilations à l'échelle hémisphérique ou régionale, donc qui ne sont pas directement issues de ce lac. Et par contre, les deux courbes de couleur, ici en violet et en orange, représentent en fait des mesures faites à très haute résolution, avec une résolution qui est quasiment aussi bonne que celle qui est obtenue avec les cernes d'arbres, mais ce sont des rapports géochimiques. Ici, il s'agit de mesures dans deux carottes différentes du rapport calcium sur titane. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces lacs, en fait, la productivité biologique estivale ou au printemps, elle est liée à des organismes qui synthétisent du carbonate de calcium. Ça peut être des algues, ça peut être d'autres organismes comme des ptéropodes et autres, et les ostracodes, pardon. Et dans ce cas-là, le carbonate de calcium, en fait, fait augmenter la teneur en calcium dans le sédiment. Et par contre, on est obligé aussi de tenir compte du calcium qui peut provenir de roches diverses et variées, qui n'est pas forcément associé au carbonate. Et une façon de le faire, c'est de normaliser les choses, de normaliser les teneurs en calcium par le titane, qui est un bon indicateur de ce qu'on appelle les apports détritiques. Donc classiquement, on va utiliser le rapport CA sur TI. Et ces deux courbes, en fait, ressemblent de façon, c'est l'argument des auteurs, ressemblent étrangement au changement de température. Et donc, ils ont fait carrément une corrélation, même s'il n'y a pas de mécanisme vraiment physico-chimique qui relie directement le rapport calcium sur TI. Ce n'est pas la même chose que le dessurage et la température, le dessurage des précipitations et la température atmosphérique. Là, il s'agit d'une corrélation, on va dire, empirique, mais ils ont eu le courage, en fait, un petit peu, peut-être l'inconscience aussi, de carrément utiliser ces deux courbes, de faire des corrélations avec les changements de température à l'échelle régionale ou suprarégionale, et d'en tirer un changement de température qui est cette courbe-là. Donc, à partir de ces deux mesures, ils ont compilé des changements de température pour montrer que toute cette période correspondant à l'âge viking et à la période médiévale est plutôt une période d'amélioration. Donc on retrouve ici à partir de là l'optimum climatique médiéval dans ce lac. Et un des arguments aussi qui est important, ils ont pu aussi travailler sur les pollens pour voir à la fois les changements de l'agriculture autour du lac et les variations qui sont liées à l'élevage. Il est possible, en particulier, de retrouver certains pollens ou de spores, en fait, de certains champignons coprophiles, en particulier, qui sont des traceurs, des indicateurs fiables, en fait, de la présence d'élevage, enfin, de bovins ou d'ovins autour du lac. Et donc, ils ont pu étudier les variations de ces deux composantes de l'économie agropastorale viking de cette époque, et en particulier pour mettre en évidence que pendant les périodes les plus froides, alors au-delà précédent l'âge viking ici qui est représenté à ce niveau-là, il y avait une alternance entre des périodes les plus froides où il n'y avait que l'élevage possible et des périodes un peu plus chaudes où effectivement l'agriculture était possible. Donc c'est quelque chose qui est assez constant, il y a une complémentarité entre ces deux aspects, et c'est plutôt les périodes chaudes, et en particulier la période de l'optimum climatique médiéval, qui va permettre le développement de l'agriculture en Scandinavie. Et donc toutes les périodes beaucoup plus froides, elles sont pénalisantes justement pour cette agriculture. Et finalement, quand je vous ai montré que cette période viking débutait avec un siècle avec des très grands coups de froid, bon, il n'est pas impossible que ces grands coups de froid aient eu aussi un impact sur le développement de l'agriculture ou la possibilité de l'agriculture en Scandinavie, mais la quantification de cette chose est relativement difficile. Alors, il y a d'autres informations pour illustrer un peu les choses. Il y a d'autres informations qui viennent de fouilles archéologiques qui sont, on peut dire, anecdotiques, mais qui en même temps complètent le tableau. Alors, pendant toute cette période, il y a aussi des écrits. Donc c'est encore une fois pas à moi de faire un cours d'histoire sur ce sujet, mais il y a des informations à la fois géochimiques ou génétiques ou complémentaires en fait qui peuvent être obtenues dans les sédiments ou dans les sites archéologiques. Ici c'est une illustration qui provient d'une étude d'ostéoarchéologie sur des sites répartis dans plusieurs villes, dans plusieurs sites archéologiques en Scandinavie, essentiellement en Norvège, Trondheim, donc Oslo et autres. Et ce qui est représenté ici, en fait, c'est le pourcentage des trois composantes principales de l'élevage viking, à la fois les bovins, qui sont représentés, c'est un diagramme ternaire, donc il y a le pourcentage qui varie entre 0 et 100%, le pourcentage des ovins entre 0 et 100% et le pourcentage du cochon entre 0 et 100%. Donc quand on regarde, en fait, et ce pour plusieurs sites qui correspondent à peu près, on retrouve que l'essentiel était de ces ossements. Alors encore une fois, il faudrait quantifier ça en termes de kilogrammes ou de masse de viande consommée, mais peu importe, ici il s'agit du nombre des restes osseux, donc il y avait une dominance effectivement de l'utilisation des bovins. Mais une des choses qui était plus intéressante dans ces fouilles archéologiques et qui a été étudiée précisément par ces spécialistes des restes osseux, c'est ils ont réussi aussi à estimer l'âge d'abattage et d'utilisation et de consommation de ces animaux, en particulier pour les bovins, pour plusieurs sites. Là, je vous montre deux diagrammes en fait qui représentent les choses pour un site à Oslo, avec qui montre en fait que pour la période la plus ancienne. Alors là, on va même finalement pour ces sites-là, on est en dehors, on est postérieur à la période viking stricte, hein, mais encore une fois, on est au royaume, dans le royaume de Norvège qui a succédé. Tout à fait au début, on a plutôt des juvéniles, hein, des bovins juvéniles, alors que à la fin de la période, enfin là, en pleine période médiévale, pendant l'optimum climatique médiéval, comme on l'a vu, on est plutôt, et c'est quelque chose qui est... Alors, ici, il s'agit de deux histogrammes particuliers pour une fouille particulière, mais c'est quelque chose qui a été retrouvé dans de nombreux sites en Norvège et qui amène, en fait, les auteurs à conclure, en fait, que pendant toute la première période, en fait, les bovins étaient essentiellement utilisés pour le lait et la viande, puis, en fait... Ensuite, quand l'agriculture s'est développée, à la faveur aussi de l'amélioration climatique de l'optimum médiéval, eh bien, ces bovins ont été utilisés comme bêtes de trait, et c'est ça qui expliquerait en fait le changement radical en fait sur le pourcentage observé. Alors, il est clair qu'il y a des biais qui peuvent être envisagés, que les archéologues envisagent eux-mêmes aussi, mais c'est quelque chose qui est relativement bien répertorié. Donc, on a une poussée démographique, mais qui est plutôt pendant cet optimum climatique médiéval, après la période viking au sens strict. Donc, encore une fois, les vikings n'ont pas été poussés par, par la démographie galopante qui correspondait justement à ce développement de l'agriculture. C'est très clair, c'est quelque chose qui est postérieur. Et donc, on a une correspondance avec les changements climatiques, mais qui sont effectivement ici postérieurs. Alors, une autre caractéristique, un autre domaine qui est bien connu aussi de l'époque viking, c'est que ce furent des pionniers en fait de la navigation en haute mer, en particulier grâce au perfectionnement de navires rapides, légers, adaptés à la haute mer, bon, les fameux drakkars, longship en anglais ou même en scandinave. Et le terme de drakkar est apparemment une particularité française, parce que bon, je crois que le draki, c'est essentiellement c'était quelque chose qui était utilisé pour dénommer les dragons qui étaient sculptés en proue des navires. Ce terme est utilisé en plus avec deux cas apparemment, ce qui n'a pas lieu d'être, en français uniquement. Mais bon, ce sont des bateaux qui sont bien connus. Il y a un magnifique musée à Oslo avec des restes à la fois archéologiques et des reconstitutions. Et des reconstitutions, ici une photo d'un drakkar reconstitué à Dublin, un de ces fameux longships qui permettait une navigation à la fois à la voile et à la rame lorsqu'il y avait plus de vent ou lorsqu'on était en navigation côtière ou sur les fleuves. Donc une technicité importante. Ce sont des bateaux simples, mais en même temps tout à fait adaptés à la haute mer, ici on voit très nettement une énorme pièce de bois en fait qui servait à la fois de quille et de zone pour emmancher le mât. Ça donc servait à la fois de lest et de support de mât. Alors c'est important aussi quand on considère cette navigation en haute mer qui a permis justement les raids et ces explorations à longue distance, eh bien de considérer les conditions de navigation de l'époque. Alors, qu'est-ce que l'on sait de ces conditions de navigation, des changements de température, de courant, de conditions d'englacement en particulier pendant cette époque? Eh bien, il faut encore une fois là, se tourner vers la paléoclimatologie. Dans les précédents cours, justement, sur les évidences paléoclimatiques, je vous ai aussi parlé de ces compilations du groupe international Pages qui a permis de faire faire l'inventaire et d'essayer de faire des moyennes des différentes séries temporelles, différents indicateurs de paléotempérature à l'échelle océanique, et ça donne des choses qui sont je dirais encore plus insatisfaisantes lorsqu'on est pessimiste ou alors rassurantes quand on veut voir les choses du bon côté. Ici, il s'agit de la compilation qui a été publiée sur le sujet, il y en aura d'autres probablement, mais qui montre les différentes courbes individuelles, moyennées, avec essentiellement une détérioration qui correspond au petit âge glaciaire, et on voit que la période médiévale, la période viking, est plutôt avec des températures relativement hautes. Alors, il faudrait bien évidemment rajouter le réchauffement subactuel, mais là, comme là, les moyennes sont faites à chaque fois sur 200 ans, ça, c'est pas possible de montrer ce qui s'est passé depuis 100 ans avec une moyenne sur 200 ans. Mais encore une fois, on verrait très clairement un réchauffement qui suit en fait le réchauffement atmosphérique. Donc on a effectivement des fluctuations, plutôt des conditions défavorables à partir de 1200-1300, enfin, qui commencent à peu près vers 1300. On reverra que ça a une importance aussi pour les Vikings et pour les colonies tardives. Mais bon, une compilation qui est à la fois rassurante et pas vraiment satisfaisante non plus. Il s'agit d'une moyenne à l'échelle mondiale. Alors quand on se tourne effectivement vers la zone géographique nord-atlantique, eh bien il y a d'autres compilations. Ici, il s'agit d'une autre compilation qui concerne essentiellement la zone arctique et la zone nord-atlantique. Dans ce cadre-là, alors là, la compilation ne remonte pas au-delà de l'an 1000, mais globalement, on retrouve finalement la logique de ce que je vous ai montré auparavant. Ici, c'est effectivement gradué en termes de température, en anomalie de température, avec une moyenne à 10,4 et des changements de température qui sont inférieurs à 0,5 degrés. Donc, c'est pas fondamentalement impressionnant, on va dire. Mais il est clair que toute la période du petit âge glaciaire était un tout petit peu plus froide en Atlantique Nord par rapport à la période médiévale. C'est ce que donnent en fait les compilations pour cette zone. Un autre paramètre qui est important pour la navigation, notamment à haute latitude, eh bien, c'est la présence de glace de mer ou de banquise qui peut être un frein à la navigation. Alors, ça l'est en particulier pour toute la Baltique. La Baltique, elle est plus ou moins englacée, donc ça devait freiner ou permettre une navigation plus ou moins aisée des Scandinaves et des Vikings dans toute la Baltique, en particulier pour aller à l'est, mais en plein Atlantique, il y a aussi une banquise qui varie dans le temps. Ici, ce que je vous montre, en fait, c'est des vues qui vous résument un petit peu les choses aujourd'hui, qui vous montrent en fait cette fameuse banquise glace de mer que l'on peut cartographier à la fois à pied. Les premières informations sont venues d'informations d'archives, d'archivage et d'observations directes, mais aussi par satellites qui permettent en fait de cartographier quasiment en temps réel et de faire des moyennes et de regarder l'évolution. Comme vous le savez tous, la banquise est en diminution permanente depuis pratiquement un siècle. Et c'est bien résumé un petit peu par ces deux cartographies simplifiées qui présentent la situation ici en mars 2020, donc en hiver, et la situation à la fin de l'été, avec le minimum, avec cette banquise permanente, hein, qui est celle qui reste à la fin de l'été et qui va ensuite croître pendant l'hiver prochain. Donc, ce que l'on peut voir, eh bien, c'est que finalement, on a une banquise qui évolue saisonnièrement, qui est effectivement pénalisante pour certaines zones, en particulier en Atlantique Nord, entre ici dans la zone entre l'Islande et le Groenland, entre le Spitzberg et le Groenland, ou carrément au niveau de la mer de Barents. Il est clair qu'aujourd'hui, on peut faire le tour de cette. En été, on peut se balader en bateau et aller naviguer directement sans encombre pour aller jusque dans le Pacifique. C'était impossible il y a quelques décennies et a fortiori, ça l'était encore moins pendant le petit âge glaciaire lorsque la couverture de glace, la banquise, était beaucoup plus étendue. Alors, on a des informations paléoclimatiques sur cette couverture de glace. Au travers de certains indicateurs. Alors, j'en avais explicité et montré dans des précédents cours, je ne vais pas le refaire en détail, je vous en montre un parce qu'il est emblématique. Il y a certaines diatomées, en particulier des algues, qui vivent sous la glace, qui arrivent à avoir suffisamment de lumière, même sous la banquise, pour pouvoir procéder à la photosynthèse, et donc il est possible de les observer, aujourd'hui, dans la banquise, carrément, quand on nage, quand on plonge sous la glace, mais aussi en faisant des carottages. Ici, vous avez une carotte qui a été prélevée sur de la banquise, en marge de banquise. On voit très nettement une proportion qui est très sale et qui est liée à ces diatomées qui sont brunes et qui contiennent en fait des molécules tout à fait caractéristiques. En particulier, il y a un composé, un hydrocarbure qui est l'IP25, qui est tout à fait diagnostique de ces diatomées qui vivent sous la glace. Et quand on les retrouve dans les sédiments, lorsqu'il n'y a plus rien d'autre, on peut à la fois essayer de compter, c'est effectivement ce qui peut être fait par certains climatologues, paléoclimatologues, de compter les différents assemblages de diatomées, les frustules, donc les petites coquilles en silice des diatomées, mais il est aussi possible d'utiliser cet outil pour essayer de reconstituer la position maximale de cette banquise aux différentes époques. Alors les différents enregistrements qui ont été obtenus, eh bien, ils sont encore une fois ce qu'ils sont, c'est-à-dire assez incertains, pas très impressionnants. Ici, je vais vous en montrer deux, mais essentiellement pour vous dire qu'on a finalement assez peu d'informations sur ce qui s'est passé pendant la période viking. Est-ce qu'il y a eu vraiment de grosses fluctuations correspondant à cette période, ou est-ce que globalement la banquise pérenne était là, mais on n'a pas d'autres idées. Alors ici il s'agit d'une reconstitution pour les qui va au-delà, qui va pratiquement jusqu'en 600, sur toute la période de 600 à 2000, avec différentes informations, mais essentiellement une compilation de plusieurs indicateurs, avec une incertitude qui est exprimée par le ruban rouge, qui montre en fait qu'il y a une très grosse incertitude sur ces compilations d'indicateurs. Alors il y a certaines courbes qui sont particulières. Ici vous avez une courbe qui a été établie pour le détroit de Fram, donc entre le Groenland et le Spitzberg, et ici plutôt une moyenne, on va dire, sur toute la zone. tout ce qu'il faut voir, c'est, au premier ordre, c'est que quand on compare avec la situation actuelle, il y avait effectivement beaucoup plus de banquise à ces époques, en particulier pendant toute la période du petit âge glaciaire, mais il y en avait aussi de façon beaucoup plus significative qu'aujourd'hui pendant la période viking, même si cette période était bénéficiait de conditions un peu plus favorables que pendant la période la plus froide, on va dire, du petit âge glaciaire. C'est un peu le résumé que l'on pourrait faire. Alors il y a d'autres. Ici, je vous montre un autre enregistrement juste de ces variations de la banquise, de l'extension de la banquise, exprimée ici en millions de kilomètres carrés, avec une courbe de compilation de différents paléo-indicateurs, comparée avec les mesures directes instrumentales qui permettent de remonter pratiquement sur plus d'un siècle, et qui montrent en fait des fluctuations. Mais globalement, avec un niveau de confiance ici, il faudrait mettre effectivement un ruban avec une taille relativement conséquente parce que les incertitudes sont très grandes. Donc on n'est même pas sûr que toutes ces petites fluctuations soient bien réelles. Est-ce que ce sont vraiment des fluctuations ou est-ce que c'est dans le bruit et donc l'incertitude et doit être prise en compte. Mais globalement, on retrouve en fait le même message pendant toute cette partie depuis 1200 jusqu'à... en particulier pour la période entre 1700 et 1800, on a une couverture de banquise qui est beaucoup plus importante que pendant le dernier siècle, et notamment pendant la période actuelle, où on a pratiquement une diminution qui est bien connue, bien cartographiée, et qui évolue d'année en année, et qui permet effectivement la navigation maintenant en Arctique, mais qui c'était certes pas les conditions de l'époque, ni pendant le petit âge glaciaire, ni même pendant la période médiévale. Alors, une dernière compilation, toujours à prendre, en tout cas pour ce qu'elle est, c'est une des dernières compilations que l'on peut trouver sur le sujet, avec beaucoup d'enregistrements, donc là, essentiellement dans cette zone arctique, avec une courbe ici, donc le diagramme est résumé entre 0 et 2000, entre l'année 0, enfin, l'année 1 et l'année 2000, avec une multitude en fait d'enregistrements qui ont été obtenus dans différents lieux géographiques en Atlantique Nord et en Arctique, qui sont représentés par les petites courbes en très très fin. Alors il y a des désaccords qui sont tout à fait manifeste entre les différents enregistrements, qui sont peut-être liés à des spécificités régionales, mais lorsqu'on fait une moyenne globale, c'est ce qu'ont fait les auteurs, ici on retrouve finalement des choses relativement simples, on retrouve encore une fois plus de banquises pendant le petit âge glaciaire, ici entre 1500 et 2000, qui est souligné ici, et d'autre part un minimum par rapport au petit âge glaciaire, pendant la période de l'optimum climatique médiéval et la période viking au sens strict entre guillemets que l'on a souligné ici par ce figuré. Donc on retrouve, alors il faudrait rajouter, et là bon, comme les lissages sont faits sur un siècle, on ne retrouve pas, mais il faudrait rajouter l'effondrement récent qui montre en fait que les conditions de navigabilité étaient effectivement favorable pendant l'optimum climatique médiéval, mais par contre, elles étaient beaucoup plus difficiles finalement qu'à l'heure actuelle, où là on peut effectivement faire le tour, aller jusque dans le Pacifique ou passer par le passage du Nord-Ouest. Alors, donc ces conditions de navigation étaient importantes, les conditions à la fois en termes de température et de présence de banquise, et on l'a vu, beaucoup de raisons ont poussé en fait les Vikings à partir, à aller faire des raids, bon, essentiellement pour des raisons économiques, mais aussi pour explorer de nouvelles terres et les conquérir. Alors c'est quelque chose qui a eu lieu, enfin qui est très bien répertorié dans l'histoire, en historiographie officielle. On a des dates et précises pour l'établissement des différentes colonies et des différents points de contact. Ici, c'est encore une fois une carte très simplifiée des choses de l'établissement des colonies vikings. Alors, dans la littérature, en particulier pour les colonies, dans la littérature anglo-saxonne, les auteurs anglo-saxons utilisent généralement le terme de « Norse », hein, et rarement le terme de viking. En français, on peut utiliser aussi le terme de norrois. Bon, dans beaucoup d'autres ouvrages, on utilise de façon simplifiée le terme de viking. Le terme de viking devrait être réservé plutôt aux activités concernant les raids. Les colonies, on devrait plutôt parler de colonies norroises, mais pour faire simple, j'ai pris le parti de simplifier et d'utiliser un terme particulier, comme de nombreux auteurs aussi. Alors, on va regarder aussi dans le cadre du cours, ce qui s'est passé, il y a eu des colonies qui ont été établies très tôt. Hein, vous vous rappelez, je vous ai dit, les choses officiellement débutent en 793 avec Lindisfarne, mais il y a eu d'autres colonies, des colonies avec des établissements en Angleterre, en Écosse, en Irlande, autour de Dublin, et plus loin encore, dans les îles directement au nord des îles britanniques, Féroze, Shetland, et jusqu'en Islande, et ensuite jusqu'au Groenland, et on va le voir, jusqu'en Amérique du Nord. Et c'est ça qui va nous intéresser, en fait, dans la seconde partie du cours, et en particulier le fait que on a des dates relativement précises, en fait, pour cette colonisation, d'abord de l'Islande, et ensuite du Groenland. Hein, c'est des choses qui sont relativement bien répertoriées, notamment pour la colonisation de l'Islande qui est essentiellement liée à une colonisation en 874 par des familles qui naissent de Norvège, essentiellement, et pour le Groenland, l'histoire et les sagas islandaises permettent de retracer les choses de façon assez, assez précise. En 982, en fait, un viking de l'époque célèbre aujourd'hui, Éric le Rouge, qui a été banni d'Islande pour meurtre et qui a exploré la côte sud en fait, du Groenland et pour essayer d'attirer les populations en fait qui vivaient en Islande, de l'aider justement pour fonder de nouvelles colonies, il a baptisé en fait cette terre, le Groenland, terre verte, de façon un petit peu abusive, parce que le Groenland est d'abord caractérisé par une énorme masse de glace, hein, la calotte du Groenland, comme on va le voir, mais on a des dates précises relativement, et même le nombre de bateaux qui sont partis d'Islande pour accompagner Éric le Rouge, ensuite pour créer ces différentes colonies au Groenland, donc c'est aux alentours de 985-986, avec 25 navires qui sont partis et apparemment seuls 14 sont arrivés. Donc il faut imaginer un peu les conditions de l'époque, des conditions un peu effroyables. Mais ces Norrois ou ces Vikings se sont installés et ceci est très bien documenté. Donc il y a deux colonies essentiellement qui ont été formées, une qu'on appelle la colonie de l'Ouest, qui est en fait au sud du Groenland, hein, qui est représentée sur cette carte, et une autre qui, elle, est située plutôt à l'ouest, un peu au nord, et qui était un regroupement qui est relativement bien connu, à la fois dans l'histoire avec des dates, mais aussi avec des sites archéologiques qui ont été préservés. Ici, ce que je vous montre, en fait, ce sont deux photos, que vous pouvez retrouver par ailleurs, mais deux églises, en fait, en particulier une cathédrale, assez rapidement, en fait. La population, il y a des débats, en fait, sur le nombre d'habitants, en fait, de cette colonie, de ces colonies norroises ou vikings au Groenland. Les chiffres varient entre, on va dire, 3000 ou plus du double. Les historiens les plus raisonnables parlent de plutôt 2000, 3000, une population de 2000 à 3000 âmes. C'est quelque chose qui est. Bon, finalement, on peut se dire que c'est un petit village, mais en même temps, ces colonies sont restées en contact avec le royaume de Norvège et aussi avec la chrétienté, parce que c'est quelque chose qui était aussi considéré. Il y a eu même formation des évêques qui ont été envoyés depuis l'Europe pour venir au Groenland, dans ses colonies, avec notamment une cathédrale dont les restes sont visibles encore aujourd'hui. Ici, je vous montre une photo de cette fameuse cathédrale Saint-Nicolas de Gardar, avec un premier évêque qui arrive, bon, alors plus tardivement que la formation de la colonie, mais c'est quelque chose qui a suivi et qui était important et qui signale, qui montre en fait l'importance de cette colonie pour la Norvège et même au-delà, comme on va le voir. Alors, donc le premier évêque est arrivé en 1126, le dernier meurt en 1378, et on va voir, donc, vous connaissez l'histoire, les Vikings donc, au Groenland ont périclité à partir du XVe siècle, et je vais vous donner un peu de détails, on va effectivement considérer les possibles déterminants climatiques et d'autres déterminants pour essayer de voir ce qui s'est passé et ce qui a causé justement à la fois cet établissement, le fait qu'ils ont prospéré pendant des siècles, hein, il faut imaginer que c'est quand même quelque chose qui a duré, et en particulier on a des dates vraiment bien précises, en particulier un dernier mariage qui a été célébré dans une des églises de l'établissement du Sud, dans cette église de Valsey, avec un mariage en 1408, mais les Vikings ont perduré encore pendant pratiquement un siècle après cette date. Alors l'économie viking, elle était très difficile. Les conditions du Groenland, c'est pas les conditions qu'on peut rencontrer en France en particulier, mais bon, c'était une économie de subsistance qui reposait essentiellement sur un système agro-pastoral avec de l'élevage, comme on l'a vu directement en Norvège, là dans les deux sites archéologiques que je vous ai montrés, dans les sites avec paléo-environnementaux avec des sédiments entourés de sites archéologiques. Mais donc c'était essentiellement de l'élevage de moutons, de chèvres pour la viande, le lait et la laine, et les bovins étaient là pour les produits laitiers, mais aussi essentiellement comme pour montrer un peu le statut social. Mais bon, c'était important. Ici, je vous ai montré donc une photo d'une vache de la race Nordland, hein, qui est directement une vache norvégienne, qui est directement issue des vaches vikings. Hein. C'est une vache qui a été une race qui a été sélectionnée en Scandinavie. Et donc les vaches vikings devaient leur ressembler. Ici, c'est une vue d'une reconstitution d'une maison et d'une église viking dans le sud, aux alentours de la colonie sud. On voit quelques moutons. Donc c'est des photos pour vous montrer en fait que cette économie, elle était essentiellement liée à l'élevage. Et en contrepartie, enfin en parallèle à l'élevage, il fallait nourrir ces bêtes. Alors, il y a quelques évidences en fait pour des essais d'agriculture, mais essentiellement l'agriculture qui était réalisée, c'était de l'agriculture pour produire du foin pour que les bêtes puissent passer l'hiver avec du fourrage. Donc c'est ça qui était vraiment important, c'était d'arriver à avoir suffisamment d'alimentation pour que non seulement les bêtes puissent paître en été dans les pâturages, mais aussi pouvoir survivre pendant l'hiver, qui est bien évidemment très très dur dans ces contrées. Alors voilà pour l'économie viking. On pourrait être surpris de voir que un petit village comme ça de 3000 habitants avait une importance pour la Norvège, mais alors que les conditions étaient très très dures et il n'y avait pas grand chose à faire, là il s'agit de pratiquement d'une auto-subsistance, mais un des paramètres qui assurait justement le lien avec le continent, avec la Norvège, avec le royaume en particulier, c'était le fait que les Vikings exploitaient, les Norrois avaient établi en fait un commerce d'ivoire qui était absolument crucial en fait pour ces colonies, c'est-à-dire qu'ils avaient établi un échange entre la Norvège en particulier et les colonies vikings du Groenland, avec un commerce, avec en particulier l'exploitation des morses, de ces défenses de morses, qui sont les canines des morses, à une époque où l'ivoire était très en vogue pendant ce début de Moyen-Âge, tant pour les sculptures profanes que pour les œuvres liturgiques. Ce que je vous représente ici, c'est un jeu d'échecs qui est très connu, qui a été trouvé en fait découvert au nord de l'Écosse, dans une petite île, l'île de Lewis, et ces pièces d'échecs ont été réalisées en ivoire de morse. Probablement, alors ils représentent en fait des figures que l'on connaît bien, mais qui sont typiquement aussi vikings. Hein, on retrouve des guerriers tout à fait typiques de cette époque, et tout ce jeu d'échecs finalement a été fait en Norvège, probablement à Trondheim. Alors il s'agit là d'une œuvre profane, mais il faut imaginer aussi, comme on va le voir, que cet ivoire était vraiment très utilisé et était vraiment important aussi au point de vue commercial. C'était vraiment la richesse importante de du Groenland à l'époque. Donc une exploitation de ces morses qui vivaient à proximité des colonies vikings. Alors on retrouve en fait de l'ivoire de morse un peu partout en Europe, correspondant à cette époque, correspondant à l'exploitation de ces morses groenlandais. Et en particulier, ici je vous montre une photo qui provient d'un ce qu'on appelle un rostre de morse, c'est-à-dire c'est la partie avant en fait du crâne qui a été découpée avec les deux canines, les deux défenses encore implantées. Et c'était sous cette forme en fait que les Vikings les prélevaient et ensuite les exportaient. Il y a toute une littérature en fait sur la sculpture qui est réalisée pour extraire cette partie-là du crâne des morses. Mais il s'agit ici d'un rostre, lui qui figure dans le musée du Mans et qui correspond à cette époque. Et donc on a les chercheurs spécialisés en particulier en génétique ont pu étudier dans différents musées. Alors bon, là c'est écrit en tout petit, mais bon, si vous regardez ici il s'agit d'un diagramme en fait qui représente à la fois des objets individuels provenant de différentes villes, Trondheim, etc. Vous avez Dublin, vous avez en France, ici, donc l'objet qui est effectivement exposé au Mans. Et ce diagramme, il exprime en fait l'âge des différents objets. Il est possible de les dater ou d'avoir une idée précise de quand ils ont été importés en Europe. Quelquefois, il y a une incertitude très importante sur l'âge de l'objet. Vous avez des barres qui sont très très longues, mais d'autres fois, dans d'autres cas, c'est relativement précis. Et ce qui est important, c'est qu'on a une vision, finalement, avec ces différents objets collectés dans les différents musées en Europe, une idée sur l'exportation et, en particulier, certains paramètres importants de ces morses exportées par la colonie viking en Europe. Alors, dans cette étude, les chercheurs spécialisés ont fait des études génétiques, en fait, pour essayer, d'une part, de savoir si c'était des mâles ou des femelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les défenses des mâles sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus importantes que celles des femelles. Et d'autre part, il est possible, en fait, de distinguer la provenance du morse. Donc, à l'époque, là, dans le cadre de cette étude, ils avaient pu distinguer, en fait, en comparant la génétique, la diversité génétique des morses qui ont été échantillonnés avec ces rostres présents dans les différents musées européens. Ils ont pu comparer ça avec la génétique des populations de morses actuelles et de voir qu'il y avait une certaine correspondance et qu'on arrivait à distinguer des morses provenant en fait de la partie ouest du Groenland, essentiellement partie ouest jusqu'à la baie de Baffin, et des morses situées plus au sud et à l'est qui sont représentées ici, qui peuvent être distinguées avec la génétique. Donc c'est ce qui a été fait dans ce diagramme. Et globalement, lorsqu'on représente en fonction du temps, c'est ça qui est représenté dans ce diagramme, ce sont les différents objets au cours du temps pour toute l'histoire, même au-delà de la colonie viking. On voit qu'il y a une certaine évolution dans le temps, les objets les plus anciens sont situés à gauche et les objets les plus récents à droite, forcément, mais il est possible de voir qu'il y a une certaine évolution. On a de plus en plus de morphes qui proviennent de la partie ouest au cours du temps, ce qui est bon, et on a de plus en plus de femelles, ce qui est tout à fait compatible avec un certain épuisement de la ressource. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les morses étaient présents lorsque les Vikings ont colonisé l'Islande, et ils ont été exterminés pratiquement en 1100. Donc, en fait, on a exactement la même histoire au Groenland, sauf que là, bon, l'île était beaucoup plus grande, et fort heureusement, pour les morses, en tout cas, même si les Vikings ont disparu du Groenland, les morses, finalement, ont réussi à perdurer. Mais, encore une fois, comme je vais vous le montrer, il y a des indications qui suggèrent qu'il y a eu un épuisement de la ressource, et ça, on le doit maintenant à la génétique qui est possible sur ces objets archéologiques ou prélevés dans les musées. Alors, tout à fait au départ, dans cette étude, les auteurs avaient privilégié justement ces rostres parce que c'est beaucoup plus facile à échantillonner, parce qu'une autre possibilité, c'est de travailler directement sur des objets de culte en particulier, sculptés, et là, pour obtenir des permissions pour pouvoir échantillonner un gros morceau, pour faire de la génétique, c'est relativement difficile. Donc c'est effectivement ce qui a été fait dans ce cadre-là. Ici, il s'agit d'une étude encore plus récente, justement, sur cette étude de la diversité génétique à partir à la fois des morses actuelles et d'autre part d'ivoires anciens sculptés dans différents musées. Et alors, bon, je ne vais pas vous passer en détail la description de l'étude génétique, mais globalement, ce qui peut être fait grâce à ces études, c'est d'aller encore plus loin dans la provenance de ces différents morses et de distinguer d'une part les morses islandais, les morses en provenance de l'est du Groenland, de l'ouest du Groenland, de très haut en latitude au niveau de la mer de Baffin, la baie de Baffin. Il y a tout à fait au nord une partie qu'on appelle la Polynie, donc une zone ouverte sans glace de mer qui est tout à fait bien répertoriée. Il y a d'autres bassins qui sont là carrément dans le nord canadien, le Svalbard, etc., et d'autres zones au Canada. Et donc il est possible, en fait, grâce à la génétique sur ces objets, de cartographier les choses un peu de façon similaire à ce qui avait été fait sur les rostres, et le résultat des courses est résumé finalement sur ce diagramme qui vous montre en fait l'évolution de la provenance de l'ivoire de morse au cours de l'histoire de la colonie Viking du Groenland, avec une flèche temporelle ici. Donc depuis le début de l'exploitation des morses, avec tout à fait au départ des morses qui étaient prélevées essentiellement dans la zone à proximité des deux colonies vikings. Donc il fallait qu'ils montent relativement en latitude pour aller en particulier dans une baie qui s'appelle la baie de Disco, qui est à peu près située à ce niveau-là. Là, je ne sais pas si on voit, la baie de Disco est à peu près ici. Donc les premiers morses qui avaient été exploités, c'était les morses de la baie de Disco et de cette zone ouest-groenlandaise. Et ensuite, on voit que de plus en plus de morses... Alors, la grande barre ici, elle est liée au fait qu'il y a une totale incertitude sur l'âge de cet objet, mais globalement, ce que l'on peut voir, c'est que tout à fait au départ, on a beaucoup d'objets qui sont sculptés sur des ivoires ayant été prélevés à proximité de la colonie sud, et beaucoup plus tardivement, l'ivoire de morse a été prélevé beaucoup plus au nord, carrément jusqu'au nord de la mer de Baffin. Donc il faut imaginer des déplacements importants depuis le sud du Groenland jusqu'au nord du Groenland par des expéditions de navigation et de campement de ces Vikings, avec une progression. Voilà, on voit très clairement que à la fin, vers le milieu et la fin en fait de cette période Viking au Groenland, on avait plutôt une provenance très éloignée jusqu'à une provenance qui est assez débattue et assez étonnante, c'est-à-dire que les chercheurs en génétique ont pu montrer qu'il y avait aussi une provenance de certaines zones au nord de la mer de Baffin, et là, il y a n'y a aucune information sur des expéditions vikings qui seraient allées aussi loin que ça, à l'intérieur, enfin au-delà de la mer de Baffin, au-delà de l'île de Baffin en tout cas. Donc les chercheurs qui sont responsables de cette étude ont essayé de cartographier et de voir quels ont été les chemins et les campements possibles en mer de Baffin de ces vikings qui sont allés prélever très très loin au nord ces morses, toujours pour assurer la survie en fait de la colonie viking qui dépendait de ce commerce avec la capitale, avec le royaume de Norvège. Donc ici, vous avez toujours tiré du même travail un essai de cartographie des différents points de chute, des différentes zones en fait favorables à l'exploitation des morses par les vikings, jusque pratiquement au nord, cette zone qui est représentée ici en rouge, la zone de la Polynie du nord de la mer de Baffin, et cette zone-là encore plus éloignée, beaucoup plus intérieure, au nord de l'île de Baffin, avec une provenance de certains morses venant de cette zone. Donc tout à fait, là il ne s'agit pas d'hypothèse, les preuves génétiques sont là, et donc pour l'instant il n'y a pas vraiment d'explication pour certaines exploitations qui sont assez surprenantes. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour cette semaine, parce qu'on va encore une fois continuer l'étude des Vikings au Groenland, et en particulier cette exploration qui a eu lieu à la fois en mer de Baffin, et on va voir qu'ils sont allés en fait beaucoup plus loin, toujours, encore une fois, en essayant de connecter les informations avec les informations paléoclimatiques au cours du temps sur cette période. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.